L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Samantha Cox vient de garer sa Chevrolet Camaro sur le parking de l'Institut médico-légal de l'Université de Pennsylvanie. Il fait chaud à mourir ce 20 juillet 2017. Il est 9h, mais le soleil déjà est étouffant. Gracieusement, d'un saut de sauterelle, elle sort de sa voiture, sacoche en bandoulière et café à la main. Discrètement, elle se dirige vers son bureau. Silencieusement, l'air grave. La veille au soir est arrivé à la morgue un corps qu'elle est chargée d'identifier. Vieux de plus de 100 ans, coulé dans du béton. Potentiellement celui du premier et du plus grand tueur en série que les États-Unis aient jamais connu. Dans quelques instants, elle passera le seuil de son bureau et se jettera dans les flammes de l'enfer. Cette dépouille, c'est peut-être celle de H.H. Holmes. À la simple évocation de ce nom, Samantha Cox s'étrangle en avalant de travers son latte macchiato bouillant. Elle se brûle. Il est 9h. L'heure H de mon histoire. Lorsqu'on a présenté à la chercheuse le projet tout à fait hallucinant d'aller exhumer le diable de la ville blanche, Chicago, elle en a été particulièrement mal à l'aise. On parle tout de même du premier tueur en série américain. Et quel tueur ! Rien qu'à l'évocation de ses initiales, la peur de la malédiction vous assaille. Depuis 1896, date de son exécution, les histoires les plus folles parcourent les routes des États-Unis. Certains osent même dire et écrire, preuve à l'appui, que selon eux, H.H. Holmes est en réalité parti, qu'il aurait aussi simplement qu'un bonjour lancé à son voisin avant de partir au travail, mis en scène sa propre mort. Puis, selon les uns, billet première classe et direction les plages paradisiaques de l'Amérique du Sud. Pour d'autres, l'Europe, où l'homme serait devenu, tenez-vous bien, Jack l'Éventreur. Samantha Cox, elle, est plus pragmatique. C'est souvent le cas des scientifiques. La jeune femme, lunettes vissées sur le nez, plisse les yeux à la lecture du dossier. Le corps, enfin, les ossements, eux, attendent dans la chambre froide, attenante, à 25 mètres, tout au plus. Et alors que la température de la pièce frôle déjà les 22 degrés, de son échine à ses bras, une chair de poule inexplicable saisit la scientifique à chaque nouvelle ligne déchiffrée. Elle referme subitement le dossier et se sert du contenant de son café trop chaud comme d'une bouillotte, alors même que le soleil se fracasse déjà sur les vitres alentour. Quel destin ! Quel malade ce type ! Enfin, elle a accepté d'être au cœur de ce projet et maintenant des gens comptent sur elle. Il faut se ressaisir. Comme une boxeuse remonte sur le ring après avoir pris dans les dents un uppercut, Samantha Cox ouvre de nouveau son dossier. L'étape d'après est bien plus difficile. Il va falloir aller chercher le corps et décortiquer les ossements, le tout pour tenter d'identifier celui ou celle qui se décompose sous la pierre tombale la plus glauque de tout le pays. La chercheuse lit maintenant en diagonale, comme si une lecture rapide allait permettre de mettre fin plus rapidement au supplice. Elle tombe sur le mot « béton », écrit en gras. Ah, c'est juste. Elle avait oublié, prise dans le tourbillon de ses émotions. La dernière volonté du tueur à la grosse moustache et au chapeau melon avait été respectée, celle d'être coulé dans du béton après sa pendaison. Le pauvre petit craignait que des hurluberlus ne viennent se servir en portant certaines parties de son corps pour en faire des pièces de musée ou pire, des éléments pour rites sataniques ou sombres. Samantha Cox hausse les sourcils et lève les yeux au ciel. Franchement, la justice de la fin du 19e siècle était quand même particulière. Rien à faire des désiderata de ce malade en col blanc. Au contraire, ça, c'était son opinion personnelle. Mais elle n'en avait strictement rien à secouer des dernières volontés de ce Freddy Krueger d'un autre âge. Cette histoire sordide a marqué tous les esprits de la pointe nord du pays aux confins du Texas. Depuis 1896, tout le monde a entendu parler de la carrière de ce boulimique de cadavres aux méthodes aussi ingénieuses qu'affreuses. D'ailleurs, le mari de Samantha, un peu superstitieux, lui a bien dit de se méfier de l'énergie négative dégagée par les ossements. Il lui a même glissé dans la poche de son jean un petit flacon en verre rempli d'eau bénite récoltée à l'église méthodiste du coin. On ne sait jamais. Elle le sent, ce petit flacon qui touche sa cuisse gauche. Et même si en partant de la maison, elle avait fait un peu la maline en se moquant de son mari, tout en prenant le flacon quand même, la lecture du dossier la rend un peu nerveuse. Après les mots, voilà les photos. La première représente le château, la maison de Holmes, si vous préférez, le navire de la torture. Ah oui, si vous ne le saviez pas, H.H. Holmes a un métier très particulier, en plus de celui de tueur. Il est gérant d'hôtel. Et ceux qui en ont poussé la porte n'en sont jamais ressortis. Cette fois, Samantha Cox laisse échapper le dossier. Ses mains tremblent. Nouvelle pause dans cette découverte de l'horreur pour elle. Les mains moites, les genoux prêts à l'abandonner sous le poids de la terreur, la scientifique doit s'asseoir. Son café est terminé. Le gobelet est maintenant un cadavre de plus, posé sur le bord de la fenêtre. Les photos qui défilent devant ses yeux la terrifient. Elle est comme happée par le Chicago des années 1890, par une réalité morbide de crimes dont les victimes n'ont jamais été retrouvées, avalées par le château, offertes en sacrifice au gérant de cet hôtel de la mort. Mais voilà que sur une des photographies, elle découvre des stands. Une agitation inhabituelle dans la rue qui entoure l'endroit. C'est un touriste qui a pris la photographie. Elle regarde la date. 1893. Que pouvait-il bien se passer à cette date dans la ville blanche? Intriguée, Samantha attrape son GSM qui traîne sur le bureau et se connecte à Google. Ah, les outils numériques, un moyen particulièrement pratique pour éviter de se casser la tête. Ou se ramollir les méninges, c'est selon. Il lui suffit de deux mots, Chicago, 1893, pour trouver son bonheur. La plus grande encyclopédie du monde affiche en tête de liste ces quelques mots. Exposition universelle de Chicago. Comme par magie, voilà notre scientifique parti à la découverte de l'un des événements les plus importants de l'histoire des États-Unis à la fin du 19e siècle. La lecture des lignes, le déroulement des paragraphes, les photos et les anecdotes relevées sur la page Internet, tout la plonge dans une atmosphère qu'elle n'a pas connue. Les odeurs, les bruits, les passants, les stands des différents pays et le temps qu'il faisait, tout y est répertorié. Samantha Cox, sans même s'en rendre compte, se retrouve transportée dans les rues d'un Chicago en pleine effervescence. Elle est en face d'un bâtiment immense, aux très nombreuses fenêtres. La bâtisse dénote. Elle est différente des autres de la rue. Elle semble maussade et sauvage, alors qu'aux alentours, tout respire la vie et la fête. La devanture abîmée abrite un petit panneau qui, flottant va-et-vient, couine. Hôtel, c'est ce qui est inscrit. C'est immense. Elle, qui compte rester plusieurs jours sur place, cherche un endroit pour dormir et cet établissement, certainement à défaut d'être du dernier jus, est sans doute abordable. Oh, après tout, que peut-il bien lui arriver en plein centre-ville ? Rien, rien bien entendu. Et la voilà maintenant qui traverse la rue au milieu des calèches et des vendeurs de journaux. Elle pousse la porte qui grince à son passage. Derrière le comptoir, un homme l'attend. Il est grand, a l'air débonnaire, porte une grosse moustache, un costume trois pièces et un chapeau melon noir. Et un sourire carnassier. Presque une arme de prédation. Samantha, elle, serre dans sa main l'eau bénite fournie par son mari. Oh, la scientifique ne rigole plus du tout. Derrière les portes vitrées, la chambre froide semble presque avoir pris vie, elle aussi. La terreur, insidieuse, s'est déjà emparée de la jeune femme. Plongeons avec elle dans la panique des profondeurs et voyageons dans l'horreur. Entrons nous aussi, tout comme Samantha, dans le hall d'entrée de cet hôtel aussi kitsch que calme. Mais vous connaissez l'adage. La quiétude est souvent signe précurseur de la tempête. Nous sommes au début de l'année 1888. H.H. Holmes est un homme occupé et un businessman en devenir. Enfin, du moins c'est ce qu'il espère. Oh, l'homme n'est pas très grand, pas très beau non plus. Il porte une grosse et grande moustache qui vient lui chatouiller les narines. Il est continuellement coiffé d'un chapeau melon qui vient cacher une calvitie naissante. Cet assistant de pharmacie vit à Chicago depuis un peu plus de 3 ans. Il aime cette ville et il envisage de s'y installer de manière définitive. Le voilà qui attrape une cigarette durant sa pause de midi et qui avale 4 à 4 un sandwich rassis au salami. La moitié des miettes de pain lui reste dans les poils qui mangent sa lèvre supérieure. Notre homme ne quitte pas du regard un terrain vierge sur le trottoir d'en face. Oh, il a de grands projets. Il vient d'acquérir cette parcelle assez grande pour en faire un petit pavillon avec un beau jardin. Mais d'espace vert, il n'en a pas besoin. H.H. Non. Non, lui, ce qu'il botte, c'est l'hôtellerie. Oui, il veut un hôtel, et il compte bien le construire à la sueur de son front et à la force de ses mains. D'autant qu'il a déjà les plans et qu'ils sont, comment dire, particuliers. Si trop de prestataires viennent mettre leur nez sur ce chantier, les questions vont fuser avant même l'ouverture, et ça, c'est totalement impensable. L'apprenti pharmacien et futur gérant d'hôtel a déjà les idées très claires. Dans 5 ans, en 1893, la ville de Chicago accueillera l'un des événements les plus en vue au monde, l'exposition universelle. Et qui dit touriste, dit nécessité de se loger. Qui dit logement, dit hôtel. Vous avez compris la démarche. Holmes veut s'en mettre plein les poches. Il compte donc bien ouvrir son établissement peu de temps avant la venue de cet extraordinaire ensemble de délégations du monde entier. Il pense sincèrement que beaucoup de belles choses sont à venir pour lui. D'autant que ce terrain, il l'a payé une misère. De quoi garder un beau budget pour la construction. Certaines des pièces, en effet, ne sont pas encore définies. Il va devoir y réfléchir un peu plus en profondeur. La construction, dans son esprit, prend au fil des jours et des semaines tout son sens. Les couloirs, la décoration, l'agencement, le nombre de pièces, les étages se concrétisent. Et les espaces cachés, les petits couloirs de service sont des éléments qui le concernent et qui vont lui permettre de mener à bien ses plans. Car oui, croyez-le bien. Il a une idée très claire derrière la tête. Gérant d'hôtel en toute légalité. Mon œil, ouais. Ça, c'est pour les autres. Lui, il est la fibre des gens qui sont vénaux, l'appât du gain, par n'importe quel moyen. La lueur, qui s'illumine de plus en plus dans ses yeux au fur et à mesure que les jours passent, n'est pas seulement due à l'excitation classique d'une nouvelle aventure, non. Elle est plus malsaine que ça. Mais avant d'étudier la psychologie d'un personnage qui, vous allez le voir, n'a pas fini de vous faire frémir, laissez-moi faire les présentations. Herman Webster Mudgett, né le 17 mai 1861 dans l'état du New Hampshire, entre les champs de blé et les vaches. Bon, oui, rassurez-vous, nous parlons toujours bel et bien du même homme, mais notre héros, si l'on peut dire, change aussi facilement d'identité qu'il peut changer de chemise. Le plus connu de ses noms d'emprunt étant celui de H.H. Holmes. Son enfance nous est inconnue, quasi totalement inconnue. Ses parents, membres d'une petite classe moyenne, lui offrent des conditions de vie normales, sans traumatisme ni violence rapportée. Il est le cadet de 4 enfants. Un témoignage de ses jeunes années, le seul de sa part, est rédigé alors que l'homme se trouve derrière les barreaux, attendant la corde chargée de lui rompre le cou. Il y raconte qu'il a connu une maison particulièrement bizarre alors qu'il était un petit garçon d'à peine 7 printemps. Chaque jour, en allant à l'école et en revenant chez lui le soir venu, le petit garçon passait devant ce cabinet, celui d'un certain Dr. Wright, le médecin de famille des siens. Il en avait peur. D'autres enfants, apprenant son appréhension, le poussèrent un jour à l'intérieur de la maison détestée et l'enfermèrent dans un placard du vestibule. Imaginez l'horreur pour un petit gamin d'à peine 7 ans. Terrorisé, terrifié, il n'a osé crier. Au lieu de ça, il attendit. La pénombre devenant bientôt familière, ses yeux commencèrent à distinguer les éléments qui l'entouraient. Sur sa droite, les os tendus dans sa direction, il distingua un squelette. La panique, une nouvelle fois. Et puis, les heures passant, l'enfant commença par curiosité à s'approcher, puis à toucher le squelette. Un sentiment de fascination l'étreignit. Ce n'est que 4 longues heures plus tard, alors que le médecin revenait de consultation à l'extérieur, que le garçon fut libéré du placard et qu'il s'enfuit chez ses parents. Cette anecdote, qui peut paraître anodine, est pourtant celle qui, selon Holmes, justifie sa fascination pour le mal et les forces obscures. C'est cet épisode, si tant est que l'on se permette de croire un esprit torturé comme le sien, qui serait à l'origine de sa volonté de suivre des études de médecine. Fasciné par le morbide, il voit là un moyen d'assouvir ses pulsions. Il a alors une petite 20aine d'années. Sur les bancs de l'université, il rencontre Clara Lovery, qui a la splendide qualité d'être l'héritière d'un petit empire local. Les jeunes gens tombent amoureux. Holmes et sa compagne quittent le New Hampshire, bien trop exigu pour deux jeunes en mal de sensations fortes. Ils ont ensemble un petit garçon. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais l'idylle ne durera pas longtemps. Holmes est malheureux. Il veut devenir riche et surtout mener à bien ses études qui patinent. Il renvoie alors femme et enfants dans le New Hampshire en leur promettant de les faire revenir une fois sa fortune bien établie. Mais comment faire rentrer de l'argent alors qu'on est un petit étudiant et qui plus est sans le sou? Certains choisissent le travail. Lui, ce sera la fraude aux assurances-vie. Le principe, il trouve un complice, contracte pour lui des contrats d'assurance, laisse ensuite passer quelques mois et hop, il simule la mort du fameux Lascar. Le tout est possible car il achète des cadavres à des médecins peu scrupuleux de sa connaissance. Pour qu'on ne puisse pas les reconnaître, il les défigure à coups de pelle et le tour est joué. La technique, bien huilée, lui permet d'empocher 50% du bénéfice. La magouille lui permet de bien vivre pendant quelques temps, sans se faire prendre, d'envoyer un peu d'argent dans le New Hampshire et surtout de lancer sa vie d'escroc. Et devinez quoi ? Il va se plaire dans l'illégalité, tellement qu'il ne rappelle plus sa femme et son fils quand la situation aurait pu le permettre. Tellement qu'il arrête ses études sans attendre d'obtenir le fameux sésame qui lui aurait permis de devenir médecin. Non, au lieu de ça, il déménage une nouvelle fois. Nous sommes alors en 1885. H.H. Holmes se reconvertit en préparateur en pharmacie. Où ? Quartier d'Englewood, dans la banlieue sud de la ville de Chicago. L'étau se resserre. Le parcours du criminel, lui, se dessine.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur une histoire criminelle totalement dingue, celle de H.H. Holmes, premier tueur en série de l'histoire américaine qui inspira de très nombreux films, livres et séries. Après une première partie de vie, somme toute normale, dans la campagne américaine, il renvoie sa femme et son fils dans le but de faire de l'argent de manière illégale. Petit arnaqueur, il arrête ses études et part s'installer à Chicago, où il est employé dans une pharmacie de la banlieue sud de la ville. C'est là que tout commence. Nous sommes alors en décembre 1885. Mais je vous laisse imaginer cette ambiance d'avant-veille de fête. Les nouveaux venus à la recherche de bonnes opportunités économiques et sociales affluent. H.H. Holmes vient d'arriver en ville. S'il a abandonné ses études de médecine, il a quand même obtenu un petit diplôme qui lui permet de vendre des produits en pharmacie. Il n'a pas choisi son employeur au hasard. L'homme, atteint d'un cancer incurable, n'est pas présent. C'est sa femme qui gère tant bien que mal le commerce, laissant de plus en plus de pouvoir à notre homme. Son époux finit par mourir et un jour, elle disparaît, sans laisser de traces. Vous avez dit bizarre ? En tous les cas, Holmes, lui, se retrouve opportunément à la tête du commerce, comme par magie. Et vous l'imaginez bien, des questions se posent. Heureusement, les clients les plus insistants et la famille reçoivent des cartes postales prétendument signées par la gérante, qui leur annonce avoir déménagé dans un état lointain pour refaire sa vie. Ben voyons. Bien entendu, les cartes sont écrites par Holmes, mais les doutes s'estompent. Bon, de toute façon, doté d'un sourire charmeur, l'homme est l'incarnation de la bonne éducation et il a du succès auprès des femmes. Ses grands yeux bleus n'y sont pas pour rien. Sa prestance et sa confiance en lui non plus. En 1887, Holmes décide de se marier avec une de ses conquêtes. Ils auront ensemble une petite fille. Le voilà donc officiellement polygame puisque oui, sa première épouse l'attend toujours dans le New Hampshire. L'année suivante, il revend ce qui est devenu sa pharmacie pour un bon prix. En effet, l'exposition universelle se profile. Nous sommes alors en 1889 et Holmes se décide à investir cette somme dans la construction de son hôtel dont il a déjà acheté le terrain. La bâtisse, énorme, prend le surnom de « château ». Plusieurs années de travaux sont nécessaires pour bâtir cet ensemble immobilier absolument dantesque, dont je vous propose maintenant de faire la visite. 3 étages, sans compter le sous-sol. un vestibule décoré avec goût et avec soin, une centaine de pièces. Le rez-de-chaussée lui permet d'installer une multitude de boutiques. Plein de commerces différents s'y retrouvent, d'un barbier à une bijouterie en passant par une pharmacie. Dans les étages, ses appartements personnels, les chambres à louer pour des hôtes de passage ou des résidents permanents. Certaines sont même réservées aux cures de désintox pour alcooliques repentants. Le bonhomme, donc, touche à tout. Mais comme vous l'avez déjà compris, c'est un escroc. Il vend partout, tout le temps, des babioles. Ses bijoux, haut de gamme, sont du toc. Ses médicaments, des morceaux de craie. Sa fontaine de jouvence, bien entendu, de la poudre aux yeux. Mais le petit commerce tourne. Il fait même de la publicité dans les journaux à tour de bras, se vantant d'être le meilleur des meilleurs. Le château est un véritable labyrinthe. Des passages secrets, des trappes, des murs amovibles, des passe-plats énormes pouvant contenir un homme, des toboggans en direction du sous-sol qui, vous le devinez maintenant, serviront à jeter les cadavres. Puisque c'est sous terre que se trouvent les espaces de l'horreur. Un four crématoire, une table pour disséquer ses victimes et surtout, de quoi réarticuler les squelettes. Ah parce que oui, tenez-vous bien, rien ne se perd. Notre homme va jusqu'à revendre les os de ses victimes à des musées et des écoles de sciences. Au fond, une cuve pleine d'acide et de chaux-vive est aussi présente. Bon, évidemment, ces pièces sont insonorisées. En bref, nous sommes là dans une usine à tuer. Génie dans le mal, orfèvre dans l'horreur. Enfin, le château est équipé partout en gaz et en électricité, tout en interconnexion, via des systèmes où des boutons déclenchent le feu dans une pièce ou allument le gaz. Dans les pièces où il gazait ses visiteurs, il est allé jusqu'à installer de fausses valves, totalement dingues, totalement malsains. Près de 400 ouvriers sont nécessaires sur ce chantier, mais Holmes est malin. Il opère un roulement constant, ce qui lui permet de faire des économies puisqu'il ne les paie pas, et surtout d'être discret. Personne ne connaît les plans en détail. La somme de la vente de la pharmacie est rapidement engloutie et il doit contracter des emprunts à droite et à gauche. Bien entendu, il ne rend jamais l'argent. Les emprunteurs qui osent venir lui réclamer se retrouvent face à son agressivité et ses tours de passe-passe. Il les menace d'action en justice. C'est le comble. Mais tous finissent par se faire avoir en définitive. Voilà qui est vraiment H.H. Holmes. Un machiavélique opportuniste, tueur en série. Mais notre homme ne s'arrête pas là. Il n'a aucune limite. Parfois, de pauvres malheureuses victimes sont enfermées dans des pièces et, pour récupérer leur peau, il les laisse mourir de faim. D'autres fois, les cadavres prennent les petits toboggans internes, arrivent au sous-sol. Ils peuvent être morts, pas de problème. Holmes les brûle, mais avant ça, prend leurs yeux, leurs dents, leurs ongles, et les corps, comme par magie, finissent par disparaître. Pas de traces, pas de questions. Du moins, pour un temps. Il est sans limite quand il s'agit de faire du profit, comme vous avez pu le constater. L'histoire est terrible, sordide. Mais qui sont ces victimes? D'abord, le séducteur utilise ses maîtresses comme une première catégorie de Kobe. Il arrive même qu'il les tue durant leur rapport. Puis, il s'attaque à ses employés. La plupart du temps avant leur première paix. Vous l'imaginez bien, connaissant maintenant notre bonhomme, dès qu'il peut faire des économies, il ne se prive pas. Tant pis si cela passe par tuer ses femmes de ménage ou ses techniciens. Quand il s'agit de visiteurs, il se saisit d'abord de leurs biens et les revend. L'exposition universelle de 1893 va poser de gros problèmes aux enquêteurs. Comment retracer avec précision le parcours de ceux qui sont venus du monde entier et qui ont disparu dans le château? C'est particulièrement difficile. La police se trouve dans une impasse pour chiffrer le nombre précis de victimes. L'exposition sera d'ailleurs sa période la plus prolifique en termes de meurtres. L'hôtel étant rempli. Le lieu a ouvert un peu avant, donc on estime que les meurtres auraient commencé aussi avant 1893. Néanmoins, pour ces envies meurtrières, l'exposition universelle est véritablement une aubaine. Mais l'excès de confiance, parfois, se paye cher. Et vous allez le voir, pour H.H. Holmes, c'est particulièrement applicable. Sa chute porte un nom, celui de l'affaire Pitzel.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à l'une des affaires les plus morbides de l'histoire judiciaire américaine, celle de H.H. Holmes. Tueur en série aux méthodes effroyables, génie du mal qui se sert de son hôtel pour tuer ses victimes et pire, faire commerce de leurs dépouilles et de leurs biens. Confiant dans ses pratiques douteuses, l'homme est ingénieux. L'une de ses favorites est l'arnaque à l'assurance vie, mais vous allez le voir, aussi malin qu'il soit, il finira par se faire prendre. C'est le lot après tout de tout bandit qui se respecte. Nous sommes le 17 novembre 1894. Il est 20h. Holmes est un homme foutu, il le sait. Nous sommes à Boston, dans une miteuse chambre d'hôtel que notre protagoniste a réservée sous l'une de ses nombreuses fausses identités. Un coup classique. Mais cette fois, les enquêteurs de la Pinkerton sont en dessous de sa fenêtre et derrière sa porte. Et le somme de sortir. Le tout en l'appelant par son vrai nom. Il a été dénoncé par un homme en prison, un ancien complice à qui, comme à la terre entière, il devait de l'argent. Pas de scrupules pour les mauvais payeurs, avait dit le bedonnant taulard. Holmes est traqué depuis Philadelphie par ses enquêteurs aux dents longues, sur ses traces depuis des mois. Oh, l'affaire n'est pas grave en soi, escroquerie à l'assurance. Son coup classique. Ouais, mais voilà. Notre homme a les mains moites. Il a la moustache qui transpire. Allumant une dernière cigarette avant son arrestation devenue inévitable, il prend le temps de remettre son chapeau sur sa tête et de signer le courrier qu'il vient d'écrire. Il y note son innocence, bon, qui ne tente rien. Holmes est stressé pour la bonne raison qu'il se sait en danger. Rappelez-vous, à ses débuts, il partageait la prime avec un complice qui se faisait passer pour mort en achetant un cadavre. Mais cette fois, la donne avait été différente. En effet, il s'était remis en affaire avec l'un de ses anciens complices, Benjamin Pitzel. Mais l'homme, rapidement, s'était montré un peu trop curieux. Alors, au lieu d'aller chercher un corps à la morgue du coin, Holmes s'était décidé à liquider l'homme avec qui il venait de monter le coup. Et ça, si la police le découvrait, attention aux dégâts. D'autant qu'il ne s'était pas arrêté là, mais ça, c'était une autre histoire. Sa cigarette est finie. Holmes doit se lever et se rendre. La Pinkerton et la justice laissent à Holmes le choix. Ou bien il est jugé à Philadelphie pour son affaire d'escroquerie, et là il risque la prison, ou bien direction le Texas, où l'attend la potence, pour une sombre histoire de vol de chevaux dont il est coutumier. Pas fou, le bonhomme choisit Philadelphie et la prison. Oui, mais voilà. Les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il plaide coupable, évitant ainsi une grosse sanction. Du moins, il l'espère, car le procès va mettre un petit moment à se mettre en place. 8 mois. 8 mois durant lesquels un détective privé va reprendre l'enquête depuis le départ. Une partie de l'histoire, en effet, de Turlupine. Remontons un peu en arrière. Holmes met le feu à la maison dans laquelle se trouve non pas un cadavre, mais son complice, Pitzel. Pourtant, avait eu la présence d'esprit de prévenir sa femme qu'il allait se faire passer pour mort quelques semaines. Mais il est le père de 3 enfants qui, eux, ne connaissaient pas les détails du plan. Alors, lorsque la police vient les chercher pour identifier le corps, devinez qui accompagne Alice, la plus grande fille du couple à la morgue ? Holmes, bien entendu. La fillette reconnaît immédiatement le visage calciné de son père. Elle devient donc pour notre tueur en série une véritable menace qu'il prend au sérieux. Il rentre vite auprès de la femme de sa victime, lui annoncer que son mari est parti se terrer à New York. Sans croiser sa fille, qui ne peut donc pas lui raconter la vérité, elle saute dans la première diligence direction la côte. Holmes, dans sa dévotion habituelle, lui a garanti qu'il s'occuperait bien de ses petits. Et c'est ce qu'il va faire. Il leur annonce un grand voyage. C'est plutôt la mort. Howard, 8 ans, est tué à Indianapolis. Alice et sa sœur, 11 et 14 ans, sont tués à Toronto. La lâcheté est totale pour Holmes, qui en vient à tuer de sang-froid des enfants pour tenter de masquer ses méfaits. Mais vous allez me dire, la mère de famille, elle est toujours vivante. Oui, mais Holmes lui a donné une adresse précise à New York. Elle y part avec son bébé. Il lui a annoncé qu'elle y trouverait dans une boîte un document important. À l'intérieur, en réalité, se trouve un système d'explosifs. Pour être sûr de son coup, il a même scié une marche dans l'escalier qui est reliée au système d'explosion. Holmes pense qu'elle n'a aucune chance. L'idée est la suivante. Tout faire exploser d'une manière ou d'une autre. La femme et le bébé meurent, les traces disparaissent et plus personne ne peut plus le relier à l'affaire. Mais pas de bol cette fois. Le génie du mal échoue. L'épouse s'en sort, ne se rendant même pas compte du piège. Elle continue donc de chercher son mari à New York, laissant en paix notre homme. Pour un temps du moins. Mais notre fameux détective, lui, décide de ne pas lâcher l'affaire. Il va passer au peigne fin près de 900 maisons, retraçant le périple du tueur et des enfants. Et, si l'on peut dire, bingo, son travail finit par payer. Il retrouve les corps nus des fillettes dans une cave de Toronto, puis, à Indianapolis, le corps du petit garçon calciné et préalablement découpé en morceaux. Fin de l'histoire. Holmes est enfin inculpé pour meurtre. Ce seront les seules accusations formellement dressées contre lui. Chicago aurait voulu récupérer celui qui est soupçonné de multiples meurtres, mais n'obtiendra pas gain de cause. Néanmoins, la découverte des corps des enfants provoque quelques remous. La police s'intéresse à ce fameux château d'Englewood. Et des questions se posent. Et bientôt, on interroge le gardien du temple, un vieil homme inoffensif, sorti de la rue et donc qui ne perçoit pas de salaire. Et il informe les enquêteurs qu'il n'a jamais eu le droit d'aller dans les étages supérieurs de la bâtisse. Tiens donc. Une perquisition plus tard, les enquêteurs se rendent compte de l'horreur des méthodes employées par l'homme pour tuer et se débarrasser de ses victimes. Mais alors que le lieu est mis sous scellé et qu'on espère y revenir pour y découvrir bien d'autres choses, mystérieusement, le 19 août 1895, le château part en fumée. Totalement ravagé par les flammes. Pour Holmes, Ce n'est pas la fin des ennuis, bien au contraire. Pour ces nouveaux chefs d'accusation, il décide de plaider non coupable. Mais le jury n'est pas dupe et le condamne unanimement. Meurtre au premier degré, peine de mort par pendaison. Pour autant, notre homme semble être particulièrement calme à l'approche de la sentence. Il mange bien, il prend du poids. On le surprend à siffloter. Il se constitue une petite bibliothèque, lit beaucoup. Comblé du cynisme, il achète un petit calendrier sur lequel il note les jours qui passent. De même particulier pour un criminel multirécidiviste condamné à la potence, vous ne trouvez pas ? Un mois avant son exécution, Holmes décide de publier un témoignage dans lequel il raconte 5 tentatives d'assassinat et 27 meurtres. Comme tout se négocie avec cet homme décidément tout à fait dingue, son témoignage lui rapporte 5 000 $. Vous allez me dire, 5 000 $, c'est pas si énorme. Mais cette somme à l'époque est délirante. Nous parlons là de près de 200 000 € de nos jours, alors je vous laisse imaginer. Et comme un père en repentance, il donne cet argent à son premier fils pour ses études. De quoi faire 2 ou 3 doctorats. Froid et détaché, Holmes n'évoque jamais ses émotions dans cet écrit. Au contraire, il avoue avoir pris un plaisir diabolique quand il a dû enterrer les enfants de son complice. Bon, pour le reste, il est très détaché des événements, sans remords, sans inquiétude face à son sort. Ce qui le caractérise comme un psychopathe au sens le plus strict du terme. Dans son récit, il évoque de manière intrigante une maladie qui déforme son corps et les os de son visage depuis qu'il est en prison. Il prendrait une forme diabolique. Bien entendu, aucune preuve que cela soit réel, mais cette apparence satanique qu'il redoute est certainement aussi le signe d'une autre maladie mentale. Cherche-t-il à se faire passer pour une victime ou à marquer les esprits ? Personne ne le sait. Son exécution est finalement fixée le 7 mai 1896. Pas de peur, pas d'anxiété, aucun remords. C'est limite s'il ne siffle pas quand on lui passe la corde au cou. L'homme n'a plus son chapeau, mais toujours son regard perçant et sa moustache. Condamné à être pendu haut et court, vous connaissez l'expression, le bourreau va la prendre au pied de la lettre, tellement que le cou du condamné ne se rompt pas comme à l'accoutumée lorsqu'on ouvre la petite trappe sous ses pieds. Le génie du mal, le monstre absolu des États-Unis de la fin du 19e siècle, mettra plus de 15 minutes à mourir. Il ne sera déclaré mort que 20 minutes après avoir été pendu. Une éternité et des souffrances assez peu imaginables. Et H.H. Holmes est parti avec une dernière volonté. Celle d'être coulé dans du béton. Et ça, ça vous le savez déjà. D'ailleurs, nous retrouvons maintenant notre légiste, Samantha Cox. A-t-elle au moins pu identifier le corps qu'on lui a déposé ce matin de juillet 2017 ? Le tueur calculateur se serait-il échappé ? Au risque de décevoir les adeptes des théories du complot, l'ADN retrouvé sur les ossements par la professionnelle est bel et bien celui de notre homme. H.H. Holmes est donc mort, et son corps, frappé du sceau du diable, est retourné reposer dans sa tombe d'origine. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation concernant H.H. Holmes. Eric Larson est un auteur qui a écrit une biographie du tueur en série, intitulée « The Devil in the White City ». Dans son premier chapitre, il présente notre tueur et sa capacité à charmer les hommes et surtout les femmes. Il décrit ainsi sa personnalité. Holmes était chaleureux, charmant et bavard et touchait les femmes et les gens avec une familiarité qui, bien que peut-être choquante chez eux, semblait tout à fait appropriée dans ce nouveau monde de Chicago. C'était au fond juste un autre aspect de la grande aventure dans laquelle ces femmes s'étaient embarquées. Et à quoi bon vivre une aventure si elle n'est pas un peu dangereuse ? Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences. Voilà pour ce récit glaçant que j'ai eu la chance de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.